Regard sur le christianisme, aux sources de notre foi, une émission proposée par Catherine Mann et Simon Martin. Le XIIIe siècle commence sous de mauvais auspices. L'armée, qui devait rassembler 30 000 croisés, s'endette auprès de la République de Venise, et voilà la quatrième croisade partie sur des chemins qui la conduiront partout sauf en Terre Sainte. Les conséquences en seront désastreuses. Cependant, en Europe, les cathédrales, symboles de la grande église, s'élèvent au-dessus de Chartres, Salisbury ou encore Strasbourg. Pour en parler, je suis en compagnie de Catherine Mann, bibliste. Catherine, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Par le créé, l'homme peut ainsi remonter à l'incréé, dit l'historien André Vaucher. C'est dire si les cathédrales sont beaucoup plus que de simples lieux de culte grandiose. On pourrait penser ça, une espèce aussi d'orgueil de la part des évêques de faire toujours plus grand, mais elles sont partie prenante de la spiritualité du Moyen-Âge.
Oh ben, sont l'expression de la spiritualité médiévale, oui, ça c'est sûr. C'est le grand souci, c'est de rejoindre le ciel et la terre. Ces flèches qui vont toucher le ciel, ça devait avoir une importance... un symbole de la grande idée du XIIIe siècle, quoi, l'harmonie entre le temporel et le spirituel. L'impression que, quelque part, déjà, le ciel est sur la terre. Quoi. Mais c'est un beau moment d'illusion, et de foi. Déjà, pour bâtir ces cathédrales, il fallait, quand on voit le boulot que c'est, il fallait une ferveur qu'aucune époque... Parce que ça, proportionnellement, c'est assez rapide comme les constructions des cathédrales. Puis, ce sont des vrais chefs-d'œuvre artistiquement parlant. Donc, toutes les âmes étaient soutenues par un mouvement spirituel. Bon, je pense que Chartres en bénéficie encore aujourd'hui.
Et il y a toute une théologie également qui va se développer autour, par exemple, de la lumière, donc des vitraux. Aussi autour
mais aussi de la pédagogie, parce que les vitraux sont une forme de théologie pour un peuple qui ne sait pas lire, un peu qui doit déchiffrer les vies des saints, l'évangile. Les vitraux sont justement des fenêtres ouvertes sur le ciel, mais aussi l'éducation spirituelle du peuple, dont quand même la plupart ne sait pas encore... lire et connaît peu de choses.
Alors, il y a cet art qui se développe dans les abbatiales riches, telles Cluny, et puis, au contraire, de l'autre côté, il y a l'art rigoriste cistercien qui fait son apparition. On a parlé, bien sûr, beaucoup de Saint-Bernard de Clairvaux. C'est le contraire, le luxe est inutile, voire dangereux, et l'âme a besoin de concentration intérieure.
Le problème n'est pas résolu aujourd'hui. En théologie, il y avait des grandes oppositions. Il y a toujours des oppositions. Je pense à Urson Balthazar qui prêche le faste liturgique, parce que dans le fond, l'exaltation religieuse demande du faste liturgique et de la beauté et l'art. Et justement, à la manière de Byzance, finalement, que l'iconographie nous entoure, les parfums, la musique. Et puis, en face, il y a toujours eu des gens pour qui réduire au minimum l'humain pour que le divin seul se manifeste.
C'est intéressant, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit dans le diocèse de Chartres, des chrétiens qui s'offusquent par exemple du bénitier de Gucci qui a été acheté il n'y a pas longtemps, alors que le diocèse est en crise au niveau des finances. C'est compliqué comme histoire.
Ah, c'est pas résolu parce que c'est toujours le problème quand on parle de l'Église. C'est comme dans la Bible, il y a toujours chaque chose et son contraire, et les deux sont légitimes. On voit bien que les deux ont des raisons d'être et des justifications. Le tout est toujours de savoir pourquoi on fait des choix, quels choix on fait, s'ils sont dans l'air du temps et pourquoi. Et c'est ça, la difficulté, c'est toujours, comme dirait le pape François, c'est le discernement. Mais les deux ont raison. Je pense que dans nos vies, il y a des moments où on a besoin de désert, de contemplation, d'espace vide et pur. Et puis il y a des moments où on préfère la musique, la splendeur et la richesse. Moi, je crois que c'est l'humain étendu entre les deux. Il faut arriver à... Je me souviens de Benoît XVI qui avait donné un cours à Rome sur la liturgie. Il n'était pas Benoît XVI, il était encore cardinal Ratzinger. Mais justement, la musique elle-même posait ses problèmes pour une messe. Est-ce que la musique doit vraiment prendre autant de place dans une messe? Et quel genre de musique, etc. Donc ce cours m'avait passionné, mais justement, il demandait que dans toute messe, on fasse une forme de trois tiers, dont un tiers pour le silence. Mais le silence au sens, justement, de dépouillement, de nos jours, c'est quasi impensable, hein, dès qu'il y a... Un petit poil de silence, tout le monde s'affole, il faut qu'on chante. Mais voilà, c'est peut-être pas très juste, parce qu'après, si on fait que du faste, eh bien, il y aura un jour l'espèce de réflexe en balancier qui va partir de l'autre côté en disant ben, « nous, on veut pas de faste, et on se fait la guerre ». Alors que si on trouvait la mesure tout de suite de cohabitation des contraires, ça pourrait être plus intéressant. Mais enfin, bon, c'est difficile.
À cette époque, naît une forme d'importance de la vie intérieure. Non pas qu'elle n'existait pas avant, mais on commence à théoriser le fait que le royaume de Dieu est vraiment au-dedans de nous. Se connaître soi-même, saint Bernard de Clairvaux en parle, c'est quelque chose qui devient important pour tous les chrétiens, du coup. Ça fait presque penser à Socrate.
Bon, il y a toujours eu, dès le début du christianisme, une espèce de filiation... avec les Grecs, mais là aussi...
Cette recherche intérieure, comme on parlait justement...
Connais-toi toi-même, mais là aussi, ça ne marche pas très bien avec le faste liturgique qui, lui, demande une institution organisée du clergé et une obéissance au clergé et aux ordres pour qu'il n'y ait justement pas de désordre dans la liturgie. Et là aussi, ça va développer deux spiritualités opposées, ceux du rite extérieur et ceux de l'expérience intérieure. Ne me dites pas que ça n'existe pas encore aujourd'hui, c'est pareil. Mais dans quelle proportion est-ce que ça doit nous habiter? Est-ce que ça ne devrait pas être les deux pour tout le monde, mais dans la juste mesure pour chacun? Je ne sais pas.
Alors, cet équilibre, peut-être qui semble avoir été peut-être trouvé avec des gens comme Bernard de Clairvaux ou Guillaume de Saint-Thierry, entre mystique et théologie, d'autres personnalités de cette époque, telles Hildegard de Bingen et les Beguin, dont nous allons en parler
c'est
maintenant,
un peu plus tard, oui.
Vers le milieu du XIIIe siècle, oui. Vont basculer totalement dans le côté mystique et peut-être échapper, pour le coup, à la théologie rationaliste.
Mais on a déjà vu, c'est une tendance qui est là, puisqu'on a vu qu'il y avait eu tout un mouvement à Orléans une partie du clergé, justement, était plus pour un développement personnel. C'est un besoin de tout chrétien, le retour sur soi et le droit à une mystique personnelle. Mais déjà, le clergé d'Orléans, il a été brûlé. Hein, donc, mais ça ne disparaît pas, le besoin. La spiritualité reste un besoin collectif. Le problème, c'est toujours quand une chose se développe énormément, son contre-coup, son contre-pied se développe
on
aussi.
On l'a vu souvent, effectivement.
Oui. Donc, c'est une époque où on a vu se développer donc, la liturgie, le culte marial, le culte eucharistique. Il y a énormément de pompes liturgique
qui pèlerinages.
Et les pèlerinages, ah, et puis l'adoration des reliques, et tout ça se développe. Donc le côté rite extérieur s'est énormément développé avec la cathédrale. Elle pousse un peu à ça. Les gens se rencontrent, et voilà. Et immédiatement, quand une chose prend de l'ampleur, vous avez en face des contradicteurs qui vont essayer de s'imposer. Et, déjà, Saint François en est un exemple, et même Saint Dominique. Il y a une recherche du dépouillement et de la pauvreté personnelle. Et ils auront des problèmes, les pauvres. La pauvreté ne va pas avec le faste des cathédrales. Il faut savoir ce qu'on veut. Ben, on veut les deux. C'est pas si facile que ça. On a vu qu'il y avait un besoin qui naissait dans la population depuis plusieurs dizaines d'années déjà, et qui était effectivement non seulement la pauvreté personnelle, mais le désir d'une église pauvre, hein, d'un clergé différent, d'un clergé pauvre, qui voulait aussi avoir accès à la lecture et à la méditation personnelle des Saintes Écritures. On commençait à traduire la Bible,
oui, parce
dans
que
les langues vernaculaires.
Je fais une petite parenthèse, mais la Bible n'était pas du tout lue par les gens, même par les clercs. C'était des petits morceaux qui étaient lus.
C'est le latin.
Les Bibles entières, évidemment, étaient très rares.
Oui, puis c'est un privilège. Il faut se rappeler que c'était écrit à la main sur des parchemins, et que donc tout ça coûtait très 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 cher, et que se payer une Bible en entier, c'était un luxe que peu de gens avaient. Mais bon, le besoin commençait à naître d'interprétation personnelle des Écritures, en tout cas d'accès personnel avec la traduction. Et puis il faut reconnaître aussi une espèce de qui a commencé avec Pélage, mais en fait de mettre plus l'accent sur la sainteté personnelle, l'effort personnel, et pas sur les sacrements, qu'on a envie de relativiser la puissance des sacrements et de relativiser justement la médiation sacerdotale. Alors voilà, tout ça se développe en face, et les deux en même temps, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, le faste qui est splendide, et dont on a besoin. Je crois que ça correspond... Je me souviens de Gilles Fresson qui s'occupait de la cathédrale. Un visiteur l'accoste et lui dit: mais comment est-ce qu'on peut admettre qu'on dépense autant d'argent et vous défendez ça, toutes ces richesses? Et la réponse de Gilles Fresson avait été admirable, parce qu'il avait dit toutes ces richesses, elles sont à vous. Elles sont là pour vous. La cathédrale, c'est la maison du peuple. Et ça avait évidemment fait taire l'adversaire, parce qu'effectivement, la position est que tout le monde a besoin de faste. On n'a qu'à voir l'adoration qu'on a pour la famille royale d'Angleterre, et on n'a qu'à comprendre qu'il n'y a rien à faire. On a besoin d'avoir des modèles riches, parce que ça fait rêver. Mais en face, il y a les réalités et la pauvreté. Et là, vous avez François d'Assise qui lui, alors, il va mourir, comme je vais dire, comme tout le monde, mais son ordre va se développer à cette époque-là d'une incroyable, incroyable. On dit il y avait 1400 ou 1500 couvents au XIIe siècle.
Oui, ça paraît énorme. Ouais.
Toute l'Europe, les franciscains, c'est incroyable. Dominicains, il y avait moins, 5 ou 600, mais... Et donc, cette pauvreté était une exigence morale, quoi.
En tout cas, c'est cette spiritualité populaire qui va se développer avec saint François d'Assise, et qui va aussi...
Avec ses excès, avec les béguines...
qui va se développer, c'est ce que j'allais dire, à la moitié donc du XIIIe siècle, avec les béguines, qui sont donc un mouvement religieux qui se développe dans le diocèse de Liège et dans le Brabant. Ce sont des communautés de femmes
hainaut
qui se mettent au service des plus pauvres, et surtout qui recherchent une union mystique avec Dieu.
Oui, oui. Mais pourquoi on tombe sur leur dos toujours? À la même époque, on a eu la naissance des ordres érémitiques Les Augustins, je ne sais plus la date exacte, mais les ermites de Saint-Augustin datent du milieu du siècle, et les Carmes, les ermites de Notre-Dame de Mont-Carmel, là, dont on reprend aujourd'hui justement le fonctionnement de quelques ermites. À ceux-là, on leur fait aucun reproche. Ils font exactement la même chose. La vie pauvre de... Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ce sont des femmes ? Mais je ne crois pas seulement parce qu'il y avait les bégards. Il y avait des laïcs. On parle plus des béguines parce qu'elles étaient assez instruites, finalement. Elles étaient assez autonomes. Je crois que ce qu'on leur a surtout reproché, c'est ça. C'est que... Elles ne vivaient pas dans des couvents, elles vivaient chacune dans leur petite maison, elles étaient bien contentes, elles s'organisaient.
Mais ça ira loin, parce que donc personnalités comme Marguerite Porrette terminera sur le bûcher en place de Grève.
En plus, elle avait écrit un livre, si les femmes se mettent à écrire des livres, et ce livre a eu énormément de succès, je crois qu'il est encore lu aujourd'hui. Hein. Elle était presque elle faisait fonction de maître spirituel.
Comment peut-on qualifier cette nouvelle spiritualité très mystique ? Je ne sais pas si elle est nouvelle d'ailleurs, mais peut-être l'élément affectif qui devient prépondérant par rapport à tout ce qu'on a vu, en tout cas dans nos précédentes émissions, ou même des gens comme Saint Bernard de Clairvaux, qui avait fait des commentaires du Cantique des Cantiques, donc quelque chose de très charnel, étaient quand même des intellectuels, et même les lire aujourd'hui, ça reste assez compliqué. Tandis que là, on est dans l'émotion, on est dans l'affectif, on est dans la poésie. Je pense aussi à Edwige d'Anvers qui a été retraduite de nos jours, cette poétesse très proche des béguines.
Peut-être, effectivement, qu'il y a une place pour le sentiment transfiguré, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit quand même pas une forme d'intellect. Parce que, justement, la contemplation directe qui était... On les appelait les spirituels, hein, quand même, à cette époque-là. La quête, c'était d'être moins... terre à terre, dans la façon de vivre sa foi et d'avoir une spiritualité plus intuitive, plus spirituelle. Je ne sais pas quels sont les besoins, je pense que ce sont des aspirations légitimes, enfin, qui, de l'ordre de la contemplation.
Mais qui sont prêts aussi à brûler les étapes. Bernard de Clairvaux avait des étapes très précises pour arriver éventuellement à une union mystique, mais c'était vraiment le summum. Tandis que le mystique tel Hildegard de Bingen ou les béguines, ça pouvait partir à n'importe quel moment. C'est ça aussi peut-être qui dérangeait.
Thérèse d'Avila aussi, etc. Bon, c'est... Mais les femmes ont toujours dérangé parce qu'on ne sait pas les maîtriser. Hein. Vous savez bien, une femme, c'est toujours une hystérique. En fait, c'est parce que ça ne fonctionne pas pareil que les hommes. Donc, et c'est surtout ça qui fait problème. Parce qu'il y avait des frères du libre-esprit à cette époque-là. Je vous dis, il y avait les ermites du Carmel. Et ceux-là... ça posait pas de problème parce que ils étaient peut-être plus organisés, mais puisqu'entre hommes ils se comprennent, c'est toujours le problème. Si vous me donniez le pouvoir aux femmes, peut-être que ça changerait, mais en tout cas là c'est quand même cette pauvre Marguerite Porrette qui en a
fait les frais, donc en 1310 brûlée en place de Grève. Catherine, là, je voudrais qu'on remonte un petit peu à ce tout début du XIIIe siècle, parce que là, nous avons abordé le côté spirituel. Mais dans mon introduction, je parlais de cette fameuse quatrième croisade qui démarre en 1202 et qui va se poursuivre jusqu'en 1204 avec le sac de Constantinople qui durera 3 jours. C'est une drôle de croisade qui démarre très mal.
Ça a tourné fou.
Enfin, les historiens ont beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé.
On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un mélange entre la quête du pouvoir, la quête de l'argent, la quête de...
Ça paraît incroyable. Une dette
ça part en vrille,
contractée envers les Vénitiens pour la traverser, déjà.
Mais ce que je ne comprends surtout pas, c'est qu'ils se sont... Déjà, on a vu que les croisades s'attaquaient aux musulmans, mais ils s'attaquaient aux juifs, qui leur avaient rien fait a priori. Mais là, l'antisémitisme est devenu d'une virulence incroyable. Mais là, l'ennemi, c'était l'Église d'Orient, les chrétiens d'Orient. Il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait trois grands ennemis de la chrétienté, comme on disait. Le premier ennemi, c'était donc l'islam... envahissant. Le deuxième ennemi, c'était Gengis Khan et les invasions mongoles qui ont frôlé la France. Et le troisième ennemi, c'était l'église schismatique, comme on appelait. Parce que depuis que le schisme avait été officialisé, les orthodoxes, l'église d'Orient était considérée comme un troisième ennemi. Dans l'esprit des croisades, rappelez-vous, on l'avait vu la dernière fois, c'était toutes les hérésies, finalement, puisqu'ils avaient brûlé des cathares, des albigeois, l'esprit croisade, c'est un esprit d'élimination des hérétiques. Eh bien, on avait mis les chrétiens d'Orient dans les hérétiques. Donc, il y a eu un massacre à Constantinople.
Qui dura 3 jours, avec un pillage de toutes les œuvres d'art de la ville, et bien pire, évidemment.
Puis, je crois que le goût du sang, à un moment donné, il y a une frénésie là-dedans. On a beau dire qu'il n'y a que les femmes qui sont hystériques, mais je pense que les hommes, une fois qu'ils commencent à tuer, deviennent hystériques aussi, d'autres gens.
Cette quatrième croisade, pardon, échappe finalement au contrôle de la papauté, parce qu'il y aura des excommunions
décroisées. Personne ne comprend rien.
C'est ça, la
machine s'est emballée. C'est terrible. Mais je rappelle quand même que ça a plombé toute l'histoire de la chrétienté, au point que c'est Saint Jean-Paul II, en 2004, qui a pris sur lui d'aller vers les orthodoxes pour présenter ses excuses pour la quatrième croisade.
Les conséquences seront désastreuses.
Le schisme est devenu une haine, au lieu d'être des particularités chrétiennes, des spécificités locales, c'est devenu des ennemis hérétiques, et ça c'est...
Au niveau de la géopolitique également, ça sera des graves conséquences, car Constantinople étant tombée, les Turcs arriveront après, bien plus tard, jusqu'en Europe. Il ne faut plus rempart contre l'Islam.
Je pense qu'effectivement, on voit que le Byzance, ce qu'on appelle l'Empire byzantin, s'effondre. Et l'Église grecque, comme on les appelle ici, n'a plus le soutien des autres chrétiens, et les problèmes vont commencer... pour les chrétiens d'Orient, là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit retour quand même. On se sent plus solidaire des chrétiens d'Orient et de leurs souffrances, mais elle est quand même encore vraie aujourd'hui.
Alors, il y a d'autres croisades qui vont avoir lieu. Une croisade très étonnante qu'on connaît sous le nom de croisade des enfants, une croisade populaire qui aura un double départ en France et en Allemagne.
En Allemagne, oui. Mais celle-là, elle n'était pas commandée par la hiérarchie et les papes, et qui ne l'ont pas du tout soutenue, et qui, même à un moment donné, ils ont vu que ça ne tournait pas très bien, ils ont condamné. Et du coup, quand il y avait des problèmes, ces pauvres enfants ont été lâchés, quoi. Certains ont fini en esclavage... chez les musulmans, et d'autres sont morts de faim au bord des routes. On leur donnait rien parce que le pape les avait condamnés. C'est terrible comme histoire. Parce que au départ, c'est justement une ferveur...
Un mouvement populaire
de ferveur pour aller libérer... Puis c'est un mouvement de foi.
Oui.
Simplement, on veut aller faire un pèlerinage à Jérusalem. C'est important, le pèlerinage à Jérusalem. Imaginer le pèlerinage à la Mecque aujourd'hui, c'est du même ordre.
C'est un mouvement éminemment spirituel, parce que Étienne, qui en France démarre la croisade des enfants, le fait suite à une vision qu'il a du Christ, d'une apparition, un message qu'il entend.
Ça a été vraiment massacré par tous les bouts. Hein. C'est autant par l'Église que par les ennemis des chrétiens. Vraiment, c'est une horreur, cette croisade des enfants. Et même certains ont essayé de revenir, et on ne les a même pas accueillis à leur retour, parce qu'on les traitait en hérétiques. C'est terrible. Mais l'Église, c'est pas drôle, hein, quand on voit l'histoire de l'Église. On ne sait pas très bien, parfois, quelles décisions... qui a pris ces décisions, et pourquoi, et qu'est-ce qui justifie. On est un peu choqué de la violence et de la méchanceté.
En 1215, nouveau concile du Latran, alors c'est le quatrième, comme tous ces conciles, c'est à la fois on renforce...
On met tous les problèmes sur la table, voilà. Et on discute pour essayer de les résoudre. Et alors là, il y en a des problèmes, justement. Hein, comment déjà encadrer les fidèles? Parce qu'on voit bien que les fidèles ont des désirs qui partent un peu dans tous les sens. Et alors, quand on veut diriger tout ça, avoir le pouvoir sur toutes ces âmes, avec leur chacun, il faut absolument inventer quelque chose. Et ce qui a été inventé, c'est l'exigence de la confession. Il faut que chaque prêtre ait le droit d'interroger tout chrétien qui est obligé de communier, mais avant de communier, doit se confesser. Et ça va très loin, parce que dans les directives de Latran, il y a non seulement se confesser, mais dénoncer ses voisins si on leur trouve un comportement suspect.
Et c'est vraiment pour réfréner ces mouvements populaires, comme la croisade des enfants, par exemple, quoi.
Ouais, tout ce qui pose problème, on essaye de l'arracher à la racine, quoi, dès le départ. Mais enfin, ça fait un esprit dont on voit très bien comment ça va finir dans l'Inquisition. Hein. Comme tout, au départ, c'est une idée qui a une utilité qui peut être bonne, et puis ça part en vrille, et ça devient des monstruosités comme il peut y en avoir dans l'Inquisition.
Il y a un esprit des croisades.
Oui, cet esprit des croisades qui est de purifier. Il faut arriver à imposer la vraie vérité, à extirper tout ce qui n'est pas bien. Ça va un peu aussi avec le développement, à mon avis, de la théologie à cette époque-là, mais bon.
Et ça combat aussi les mœurs parfois du clergé qui sont...
Longtemps, tous les conciles ont eu à se battre contre les mœurs du clergé.
Et on en est toujours à cette question que l'on a vue là depuis le tout début du christianisme, c'est-à-dire, encore une fois, la nécessité d'établir une vraie foi.
Oui, c'est pour ça que je pense que la théologie a de l'importance. Qu'est-ce que la vraie foi ? La foi, on peut encore comprendre. Oui, je crois. Mais je crois à quoi ? Et alors, si on commence à creuser, ça va plus loin que la récitation du credo, quoi. Ça devient la théologie. Et la théologie, à cette époque-là, elle prend un essor incroyable d'aller éplucher la pensée et ses contradictions. Et le grand art, c'est Pierre Lombard qui va lancer ça, les fondements de la théologie scolastique, ou comment éplucher un problème en disant, bon, il y a un tel qui dit ça, mais un autre va dire le contraire, et comment est-ce qu'on va résoudre les contradictions, et puis comment, effectivement, on va décider de tout ça, qu'est-ce qui est vrai.
Oui. Eh bien, Catherine, justement, la scolastique, Pierre Lombard et Thomas d'Aquin, qui naît en 1225, je vous propose de le voir dans notre prochaine émission.
D'accord, Simon.
À très bientôt.
À bientôt, au revoir.